J'en viens donc à mon deuxième grand point, c'est-à-dire cette espèce de tentative de reconnaissance, au sens géographique ou militaire, au choix, des œuvres en traduction. Plusieurs points, là. 7 exactement, si j'ai le temps de les dire tous. Le premier point sera, tout simplement, découvrir une œuvre traduite. Vous me direz, là encore, c'est une question... Enfin, ce n'est pas une question. En fait, je crois que si. C'est vrai aussi pour une œuvre originale. Comment sait-on qu'une œuvre existe? Parce que quelqu'un vous l'a dit. Quelqu'un vous dit d'ailleurs souvent le nom de l'auteur. Je ne rappelle peut-être pas très bien le nom de l'œuvre, mais enfin, j'aime bien un tel. J'aime bien Kafka, j'aime bien Zola, etc. Quand j'étais à Nantes, j'avais fait des cours de préparation au CAPES et j'avais fait, avant le premier cours, de façon à savoir quelle était la culture des étudiants à qui j'avais affaire, une question qui était celle-ci. Alors j'avais fait les choses de telle façon qu'ils devaient répondre à une question que je posais sans trop réfléchir, et puis ils passaient à une deuxième question, donc ils n'avaient pas le temps de réfléchir, et qui étaient des questions du genre, si lors de la dissertation du CAPES de lettres modernes, vous avez un sujet sur le roman, à quelles œuvres pensez-vous? Ensuite, si vous avez une question sur la poésie, à quelles œuvres pensez-vous? Si c'est une question sur le thème de l'adultère, à quelle œuvre pensez-vous? Alors, sur les thèmes, les réponses étaient parfois rien. Hein. Mais sur les premières questions, sur le roman, je demandais quelles œuvres connaissez-vous? On me répondait Balzac, on me répondait Flaubert, on me répondait Zola. Rares étaient les étudiants qui pensaient à des œuvres. Hein. Donc, on pense à un nom. Alors, pour les œuvres en traduction, les œuvres traduites, c'est un peu la même chose. On entend dire à la radio, sur France Culture, France Inter, France Info, Luxembourg, n'importe quoi, qu'il y a tel écrivain qui... Bon, on retient le nom de l'écrivain, parfois on retient parfois le nom de la traduction, mais c'est tout. Or, la recherche n'est pas toujours facile, parce que là, nous nous heurtons au problème même du passage d'un système linguistique à un autre. Vous connaissez les exemples, je ne vais pas y insister. C'est les problèmes des titres, par exemple. Le meilleur des mondes, il n'est pas évident que tout le monde sache d'emblée que le titre original, c'est Brave New World, et qu'on sache aussi pourquoi il y a eu ce titre. On ne sait pas d'emblée que Jacob von Gunten, de Robert Walser, est devenu en français l'Institut Beniamenta, etc. Bon. Donc, il y a le titre. Hein. Si on a un titre, quel titre a-t-on et à quoi est-ce que ça renvoie? Il y a le problème des recueils. Les recueils de nouvelles, par exemple, les recueils de contes et autres, les recueils d'essais. On a un titre d'un essai, on n'a pas forcément le nom du recueil dans lequel il se trouve. Et parfois, on fait des recherches compliquées et difficiles. Je vais y venir. On a également le problème du support. Vous avez, et c'est un vrai problème, justement, pour une histoire des traductions en langue française, vous avez le problème des œuvres traduites qui n'existent que dans des revues, qui n'ont jamais été reprises en volume. Or, les revues ont joué un rôle capital pendant tout le XIXe siècle et tout le XXe siècle. La Revue des Deux Mondes, la Revue de Paris, la Nouvelle Revue, c'est aussi pour les revues étrangères, hein, l'Edinburgh Review, la Deutsche Rundschau, etc., etc. Bon, là, il y a tout un ensemble de travaux à faire, et je pense d'ailleurs que pour des étudiants qui s'intéressent à la vie littéraire au XIXe ou au début du XXe siècle, même au-delà, en Master 1, en Master 2, il y a des travaux intéressants à faire parce que ça, c'est un peu fastidieux parfois, mais en même temps, on découvre ce qu'est la vie littéraire à un moment donné, et très vite, à partir d'une revue, une grande revue, mais pas une petite revue comme la Revue Blanche, il y a quantité d'éléments qui se mettent en place et on apprend énormément de choses. Bon. Pour le cas des romans, je prendrai un seul exemple. Palacio Valdés, romancier espagnol, est très peu connu en France aujourd'hui. Il a été beaucoup traduit en revue à la fin du XIXe siècle en France. Mais ces traductions n'ont, à ma connaissance, pas été reprises en revue. Or, et là, c'est un problème qui se pose pour les universitaires et pour les bibliothécaires, je dirais pour les chercheurs dans leur ensemble. C'est que il n'est pas facile de se débrouiller dans ces questions de recueil et encore plus de revues avec les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, hein, informatiques et autres. Alors que les anciens catalogues permettaient de s'y retrouver. Permettez-moi de donner un exemple. J'ai regardé le catalogue général des imprimés de la Bibliothèque nationale, le vieux catalogue, comme on dit, dont le premier volume est paru en 1897 et le dernier, 231e, est paru en 1981. donc pratiquement 100 ans, pour faire ce catalogue national des imprimés qui s'arrête à l'année 1960. Et j'ai fait des sondages, mais très facile, dans le premier volume et dans le dernier. J'ai choisi Edmond Abou et Joseph Addison, dans le premier volume, vous savez que ça commence par A, et Stefan Zweig et Émile Zola à la fin. Bon. La procédure d'ensemble a été la même début jusqu'à la fin. Autrement dit, les œuvres originales, c'est ce que j'indiquais, les œuvres choisies, et puis les traductions à la suite des œuvres originales. Bon, très bien. Ce qui fait qu'on peut se repérer très bien. L'article Zola, avec une préface de Henri Mitran, en plus, qui est vraiment le très grand spécialiste de Zola, est admirable. Enfin, je veux dire, c'est... D'ailleurs, il a une pagination particulière. Bon, on s'y retrouve parfaitement. Et si on connaît un titre français ou un titre étranger, on peut naviguer sans problème et savoir que telle nouvelle a été publiée dans tel recueil, en russe, en arabe, etc., etc. C'est parfait. Bien. Dans le cas de Zweig, par exemple, hein, je prends le cas des traductions vers le français. Vous avez des index, hein, des index qui vous donnent, par ordre alphabétique, les titres en allemand et les titres en français. Les titres en allemand sont en romain, les titres en français en italique. Donc si vous connaissez, avec un système de numéros, si vous connaissez un titre allemand, vous voulez avoir une traduction française, vous avez le numéro et on vous renvoie à la traduction française si elle existe. Même chose, si vous avez le titre français, on vous renvoie à l'original allemand avec un numéro, pas de problème. Mieux encore, si vous avez un titre, je prends l'exemple réel, de « Die Eroberung von Byzanz », hein. Bon, c'est une nouvelle, un court texte de Stefan Zweig, vous ne savez pas si ça a été traduit. Donc vous pouvez regarder à la prise de Byzance, la conquête de Byzance. Bon, vous trouvez la conquête de Byzance. La conquête de Byzance vous renvoie à « Die Eroberung von Byzanz ». Très bien. Mais « Die Eroberung von Byzanz » vous renvoie à Les heures étoilées, en français, parce que les heures étoilées est le nom du recueil qui contient, en français, la conquête de Byzance. Bon, vous voyez ce genre de choses. Bon, du temps de, en 1897, ce n'était pas le cas pour Addison, même si les choses étaient quand même assez simples à ce moment-là. Le problème, c'est que si je prends Opal Plus, il n'y a rien à prise de Byzance, il n'y a rien qui me renvoie aux heures étoilées, et si je prends heures étoilées, il n'y a rien qui me dit que dedans, il y a la conquête de Byzance, ou la prise de Byzance. Hein. Voilà. Donc, vous voyez les problèmes que ça entraîne. Découvrir une œuvre traduite n'est pas toujours si facile que ça avec les nouvelles technologies. Bon. Deuxième problème, donc, de cette reconnaissance des œuvres traduites, ce que j'appellerais caractériser une œuvre en traduction, ou une œuvre traduite. Ici, je serai assez court parce que je me vois un petit peu obligé de vous renvoyer à un dossier que j'avais proposé dans un volume publié par Jean Bessières et Daniel Pajot chez Champion en 1999, que j'avais intitulé « Proposition pour un dossier comparatiste des œuvres en traduction ». Proposition pour un dossier comparatiste des œuvres en traduction dans un recueil qui s'intitule « Perspective comparatiste au pluriel ». Donc je pense qu'il faudrait que universitaires et éventuellement bibliothécaires puissent se mettre d'accord pour aboutir à une description signalétique minimale des œuvres traduites, incluant par exemple aussi le format, éventuellement la couverture, dire bien entendu si c'est bilingue ou non. Le problème du bilingue m'intéresse, j'en parlerai plus tard. Évoquer d'un mot les paratextes, pour employer l'expression de Genette, en l'occurrence plutôt les péritextes, c'est-à-dire Genette distinguait péritexte et épitexte, rassemblé sous le nom de paratexte, et puis l'usage fait que tout le monde emploie paratexte maintenant. Je rappelle que pour Genette, au point de départ, péritexte, c'est ce qui est dans le volume qui entoure le texte, péri en grec, et que épitexte, c'est ce qui vient s'ajouter ensuite, c'est des commentaires ultérieurs, mais le tout formant le paratexte. Bon, prenons paratexte si vous voulez. Indiquer aussi, et ça c'est un point extrêmement difficile à établir, qui demande parfois de longues recherches, quelle est la version originale utilisée? Parce que dans le cas de Properse, ou dans le cas de Shakespeare, dans le cas de Pétrarque, dans le cas de Shakespeare, il y a des tas d'éditions différentes. Donc on ne peut pas justement critiquer une traduction, une œuvre traduite, sans savoir d'où le traducteur partait. Et puis, mettre éventuellement quelques informations diverses utiles, parce que bon, les éditeurs, parfois, poussent le bouchon un petit peu loin. Quand, dans une traduction assez récente des contes de Hoffmann, On me dit que c'est fait avec une préface d'Albert Béguin. Bon, une édition assez récente d'Hoffmann, Etter Hoffmann, préface d'Albert Béguin. Albert Béguin nous a quand même quitté depuis un certain temps. Je regarde cette préface d'Albert Béguin, c'est tiré purement et simplement de quelques pages de L'âme romantique et le rêve. Mais rien ne l'indique. Donc, c'est aux universitaires, éventuellement aux bibliothécaires, en tout cas aux lecteurs de faire ça. Et dans le travail que je fais avec Jean-Yves Masson d'une histoire des traductions en langue française, nous avons établi des fiches que je ne peux pas décrire ici, bien sûr, sur la question suivante, comment décrire et examiner une traduction avec un principe essentiel, ne jamais parler d'un ouvrage que l'on n'a pas eu entre les mains. Et les reprints, je vous le rappelle, les reprints, parfois, ne reprennent pas tout, ne réimpriment pas tout. Il y a des pages qui manquent et parfois les formats ne sont pas les mêmes. Donc, découvrir une œuvre en traduction. Caractériser une œuvre en traduction, bien sûr, étape suivante, troisième, lire une œuvre en traduction. Alors, c'est là qu'il serait question de toute une formation du lecteur, une formation du lecteur de l'œuvre traduite. Et c'est là qu'il faudrait appeler toute une série de grands théoriciens sur lesquels je ne veux pas m'étendre. J'ai cité Berman, j'ai cité Benveniste, dont l'article sur les catégories du aristotélicienne devrait être lu par n'importe quel professeur d'université ou d'enseignement secondaire, pour voir à quel point, quand Aristote prétend faire ces catégories universelles, les 10 catégories universelles, en fait, il ne retrouve que les catégories de la langue grecque. Ça ne peut s'expliquer. Benveniste, c'est lumineux. Dans ses essais de linguistique générale, Benveniste le démontre à l'évidence. Et puis, plus avant, les Allemands qui nous ont précédés dans ce domaine, Humboldt, Schleiermacher. Et là, plusieurs choses sont essentielles. La première chose, à mon avis, pour lire une traduction, c'est de lire cette œuvre dans son ensemble. C'est-à-dire ne pas se contenter d'en lire des extraits, de jeter un coup d'œil dessus, mais de la voir dans son ensemble, et je précise bien, pour l'instant, sans se préoccuper de l'original. Bon, pour en discuter. Deuxième condition essentielle pour lire une œuvre, en traduction, j'insiste sur cette deuxième condition, c'est connaître des langues, et connaître le plus de langues possible, pas forcément celles d'où c'est traduit, mais connaître des langues. Bien. À partir de là, la troisième condition va presque de soi. Savoir qu'on lit une œuvre en traduction, je ne reviens pas sur les difficultés qu'on peut avoir, enfin, en général, on le sait, surtout maintenant, savoir qu'on lit une œuvre en traduction, mais surtout, savoir qu'une langue étrangère n'est pas comme la nôtre. Bon. Et ici, je voudrais stigmatiser fortement un document du ministère qui a été publié par la DGESCO, dont il y a des questions ce matin. Une commission présidée par Alain Viala a édité un document d'accompagnement des programmes pour la série littérature de terminale. C'est au CNDP. L'ouvrage, le fascicule, est paru en août 2002. Et à la page 18B, c'est-à-dire la deuxième colonne, on lit ceci. Il s'agit du problème du latin et du grec. Et on lit ceci. Il y a des choses curieuses parfois dans des langues, et l'exemple qui est pris, c'est ce que le professeur de philosophie fait dire à M. Jourdain, ou présente à M. Jourdain sur « Belle marquise d'amour, vos beaux yeux me font », etc., etc. Donc, le document donne ça et continue ainsi. « Sic », je l'ai recopié soigneusement. « Les variations du professeur de philosophie qui surprennent M. Jourdain sont effectivement possibles en latin. » C'est pas fini. C'est une marque de la langue littéraire. Parenthèse, à table et dans la rue, les latins s'exprimaient presque comme nous. Extraordinaire. Extraordinaire de voir en 2002 réapparaître cette idée d'un génie de la langue française qui est à l'arrière-plan, à savoir logique, clair, etc., etc. Et cette idée abracadabrante, que à table et dans la rue, donc je veux bien savoir parfois d'où ils tirent leurs informations. Bon, il y a pas les inscriptions, il y a les inscriptions un peu obscènes de Pompéi, mais quand même. Bon, à table et dans la rue, les latins, bon, non, les latins, ils parlaient, comme on sait qu'ils parlent, il y a Pétrone, il y a tas de choses. Enfin, donc il est effarant qu'on puisse encore aujourd'hui, dans un document officiel, présenter une chose comme ça. J'imagine que si les professeurs qui ne connaissent pas beaucoup le latin, ou les élèves voient ça, en disant, bon, après tout, si en latin, c'est parler comme d'amour, me font, marquise, belle, mourir, vos beaux yeux, bon, si le latin, c'est ça, bah, vraiment, est-ce que ça vaut la peine qu'on s'intéresse à une langue aussi farfouche ? Bon. Donc, je crois qu'il y a là, un problème, savoir que une langue étrangère n'est pas comme la nôtre. Donc, il faut connaître les particularités de sa langue, connaître aussi certaines habitudes des traducteurs, hein, qui parfois oublient qu'en français, le pronom, l'adjectif possessif, son ou ça, ne renvoie pas à un masculin ou un féminin. Alors en russe, en anglais, en suédois, ça renvoie forcément. Le traducteur oublie parfois, donc les phrases sont difficiles. Bon, je pourrais donner plein d'exemples dans ce domaine. Connaître aussi les habitudes des traducteurs. Ce matin, il était fait allusion. Répéter les mots, ne pas répéter les mots. Alors ça, c'est une plaie. Hein. Là, c'est une plaie parce que on m'a appris, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, que quand on faisait des rédactions, il ne fallait surtout pas répéter les mots. Et je me surprends encore quand je fais un article, n'importe quoi, à venir, oh zut, là, j'ai employé deux fois le même mot à deux lignes d'intervalle. Non, ça ne va pas, il faut que je trouve un synonyme. Bon, c'est grotesque. Bon. Et également, autre chose pour les traducteurs en français, c'est le problème des paragraphes. Les traducteurs français ont tendance à faire des paragraphes. Si bien que les éditeurs de Montaigne, non pas ceux qui font des traductions, des translations, mais quelqu'un comme Jean Séard, extrêmement sérieux, lorsqu'il édite Montaigne, dit « Nous avons cette fois bien conservé le style de Montaigne », ce qui signifie, enfin les paragraphes, enfin, plutôt la coulée d'ensemble de Montaigne. Bon. Donc, lire une œuvre en traduction, ça implique beaucoup de choses. Les trois points suivants sont des points qui sont d'ordre, je ne voudrais pas m'en excuser parce que c'est pour moi extrêmement important, mais je dirais c'est du domaine un peu de l'ordre pédagogique ou didactique. C'est-à-dire pour essayer de faire lire d'autres, des élèves ou des étudiants. Donc les trois points suivants, je vais les faire assez rapidement, étant donné que l'heure avance. Critiquer une œuvre en traduction. Critiquer une œuvre en traduction, là, je serais tenté de vous renvoyer à Bergman, tout simplement, et en particulier à un ouvrage qui s'intitule, j'ai dû le noter quelque part, un ouvrage que je connais bien, mais justement, je l'ai laissé de côté. L'Auberge du Lointain. Dans l'Auberge du Lointain, Bergman donne un certain nombre d'éléments sur la façon de critiquer une œuvre en traduction, établir la stratégie du traducteur. Donc, je vous y renvoie. Le cinquième point, toujours dans une perspective pédagogique, j'insisterai un tout petit peu plus, celui-là quand même, c'est celui de choisir une traduction. Une chose à rappeler, c'est que nous vivons dans une société occidentale, encore une fois, je vis dans une société dans laquelle les textes fondateurs importants sont des textes traduits. La langue de la Bible, c'est la parole de Dieu, mais c'est la langue des hommes. La parole de Dieu est par des hommes dans la Bible. Bon, très bien. Et donc, ceci étant rappelé, pour choisir une traduction, lorsqu'on a affaire... Donc, nous vivons dans un monde de traduction. Je rejoins tout ce qui a été dit sur la langue de l'Europe, c'est la traduction. Bon, je n'insiste pas. Il y a plusieurs critères à croiser pour essayer de choisir une traduction. Il y a des critères, je dirais, d'abord de disponibilité. Les œuvres traduites sont beaucoup plus difficiles à trouver dans le commerce que des œuvres en traduction, souvent. Problème financier, que je ne voudrais pas sous-estimer, notamment lorsqu'il s'agit d'élèves. En général, les professeurs choisissent, et ils ont raison, l'édition la moins chère. On ne peut pas demander à des familles d'acheter la traduction de la collection de la Salamandre à la Bibliothèque nationale ou aux éditions nationales. On peut également croiser le critère traduction récente, traduction ancienne. Si je veux étudier E.T.A. Hoffmann, dont je parlais, j'ai deux possibilités au moins. Ou bien je l'étudie avec des élèves ou des étudiants dans la perspective du mouvement romantique. Et en ce cas, je dirais français, en ce cas, pas d'hésitation, je choisis Loïc Weimars. Parce que c'est lui qui a imposé cette traduction. Si je veux étudier Hoffmann, je dirais aujourd'hui, ou bien un petit peu en lui-même, je choisirais plutôt une traduction moderne, comme celle de Philippe Forget, par exemple. Mais elle coûte cher. Autre problème, traduction avec ou sans paratexte. Traduction monolingue ou bilingue. J'y reviendrai sur le problème du bilingue. Et puis, question de qualité, c'est beaucoup plus difficile. Mais dans un cas comme celui-là, je dirais, une précaution à prendre, les traductions les plus récentes ne sont pas forcément les meilleures. Simplement, je prendrai un exemple. Ivo Andrić, que j'ai évoqué tout à l'heure très rapidement, a publié une œuvre qui s'intitule, en serbo-croate, Na Drini Ćuprija. Ça a été traduit, première fois, par Luciani, en 1955, je me rappelle bien, par « Il est un pont sur la Drina ». C'était traduit plus récemment, il y a quelques années, par « Le pont sur la Drina ». La traduction allemande est « Die Brücke über die Drina ». Traduction anglaise, « The Bridge over the Drina ». On peut penser que le titre, normalement, c'est « Le pont sur la Drina », le plus simple. Bon, même si on ne connaît pas beaucoup le serbo-croate, quand même, enfin, on connaît un peu, c'était mon cas, « Na Drini Čuprija ». On est étonné par le fait que « Na Drini Čuprija », ça se traduit mot à mot, « sur Drina » ou « sur la Drina », un pont ou le pont. On sait par ailleurs que le même Andrić a publié une nouvelle « Most na Žepi », un pont sur la Žepa. Most Čuprija. Je laisse de côté tous les raisonnements que l'on peut faire là-dessus. Il m'apparaît à l'évidence pour moi que si j'avais à recommander, à cause du titre et aussi à cause d'autre chose, une traduction de « Na Drini Čuprija », je prendrais la traduction de 1955, celle d'Il est un pont sur la Drina, parce que précisément, et là j'ai interrogé des autochtones, précisément, Na Drini Čuprija, pour un Serbe ou un Croate, ça apparaît comme étant la fin d'une phrase qui commence par « Autrefois, il était un pont sur la Drina ». Voilà. Bon. Et le pont sur la Drina laisse de côté complètement ça. On peut maintenant, c'est mon sixième point, essayer de rééditer des traductions, des œuvres traduites. Alors ça, c'est une perspective que les comparatistes, justement, ont prise depuis déjà plusieurs années. René Guise, qui nous a quittés il y a longtemps, qui était professeur à Nancy, avait une entreprise tout à fait astucieuse aux éditions LG, un tout petit éditeur, comme on dit, qui était une catastrophe pour des raisons financières, bien évidemment. Mais son idée était de rééditer des traductions qui avaient joué un rôle important avec un apparat critique. Et justement, en considérant ces traductions anciennes, ces œuvres traduites anciennes, comme des totalités, non pas en les critiquant parce qu'il y avait ceci, il y avait cela, pas compris ceci, pas compris cela, mais quelle avait été la stratégie du traducteur. Donc c'était, je dirais, du Berman avant la lettre. Et aujourd'hui, vous avez Alain Montandon, qui est professeur de littérature comparée, lui aussi émérite à Clermont-Ferrand, qui est en train de lancer une collection chez Garnier qui va consister, entre autres, à des rééditions d'œuvres anciennes. Au son programme, il y a les Nuits de Young, Macbeth, Lazarillo de Tormes, les Contes de Grimm, etc., etc. Bon, tout ça est en train de se faire. Bon, avec ces trois points, je dirais, je ferme un peu ma parenthèse des perspectives pédagogiques, ou plutôt didactiques, et j'en viens à mon septième et dernier point avant de passer à ma troisième partie, qui sera très brève, qui est la question de confronter, peut-être que vous l'attendiez, peut-être que finalement on n'en parlera pas, hein, confronter enfin une œuvre traduite. Mais confronter à quoi une œuvre traduite? Alors on pense tout de suite à l'original, bien sûr. Alors c'est là que peut se poser le problème, d'abord de savoir quel est bien l'original, je n'y reviens pas, mais le problème du bilingue. Or, toutes les expériences que j'ai pu avoir avec les bilingues, sauf dans le cas de la poésie, je dis bien sauf dans le cas de la poésie, montrent que commencer un cours avec un bilingue, commencer sur un bilingue, conduit non pas à des catastrophes, je mets de catastrophes en littérature, du moins en études littéraires, mais conduit à des mauvaises compréhensions, parce que quand on lit un bilingue, c'est aussi mon cas, j'ai fait au début, on ne lit bien ni l'un ni l'autre texte. On va sans cesse de l'un à l'autre, on croit comprendre l'un, on croit comprendre l'autre, en fait on ne comprend pas. D'autant que les stratégies des bilingues sont différentes. Budet a le texte original à droite, en belle page, parce que c'est ce qui compte pour les textes latins et grecs. Aubier, lui, c'est le texte français qui est à droite, en belle page. Bon. D'autre part, se pose la question de savoir pourquoi un bilingue. Ça peut être soit pour aider à comprendre l'œuvre originale, et c'est l'œuvre originale étrangère. C'est le cas le plus souvent. Donc c'est une aide, cette traduction est une aide. Ça peut aussi pour permettre le contrôle de la traduction. Bien. Donc, pour moi, je pense que le bilingue est à utiliser quand il existe, parce qu'ils sont quand même rares en France, les bilingues, après coup, mais qu'en l'absence du bilingue, il faut pratiquer ce que beaucoup, je pense, d'universitaires font déjà. Je sais que ça se fait en Avignon et ailleurs, c'est-à-dire des ateliers de comparaison de traduction, et de comparaison de traduction, non seulement entre traduction en langue française, mais traduction en d'autres langues, bien évidemment. Confronter une traduction de Ben Alexander Platz, il y a une seule traduction française, on peut la confronter avec une traduction en anglais, bien évidemment.